Jesus Christus.
Dix morts, des incendies qui ne sont pas encore maîtrisés, des quartiers entiers rayés de la carte en Californie. Le feu se poursuit, un couvre-feu a été instauré pour éviter les pillages. Hier, l'archevêque de Los Angeles a appelé les fidèles à être solidaires de leurs voisins. Nous l'entendrons lors de son homélie. Les fermetures de centrales à charbon en Pologne provoquent la colère des employés du secteur. Ils manifestaient à Varsovie. Reportage dans ce journal. La Turquie appelle la France à rapatrier ses ressortissants djihadistes détenus par les YPG, les forces kurdes de Syrie. Ankara pour objectif de se débarrasser de ces derniers pour assurer sa sécurité. Le congrès mission reçu par le pape ce matin au Vatican. Nous verrons que parler du Christ en France est une nécessité pour ce mouvement catholique.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. Aux États-Unis, des images de films catastrophes. Les incendies ravagent encore les abords de Los Angeles. Ce soir, la colline d'Hollywood est sauvée, mais 5 foyers restent actifs au nord, à l'est et à l'ouest de la deuxième ville du pays. Dans le ciel saturé, le balai des avions citernes hélicoptères perdure. L'alerte météo reste en vigueur ce vendredi. Le bilan humain est lourd, 10 morts. Celui matériel l'est aussi. 10 000 bâtiments détruits, 180 000 évacuations, 150 000 milliards de dollars de dégâts. L'archevêque de Los Angeles a présidé une messe dédiée aux victimes en la cathédrale Notre-Dame des Anges, appelant les fidèles à se tenir aux côtés de leurs voisins sinistrés.
Alors que nous prions, les incendies de forêt continuent de brûler autour de nous. Et comme nous le savons, les dégâts continuent d'être dévastateurs. Des milliers de nos voisins ont tout perdu, leurs maisons et leurs moyens de subsistance, leurs paroisses et leurs écoles, ainsi que leurs communautés. Nous nous rappelons aujourd'hui à quel point chaque vie est précieuse et fragile. Nous rappelons également que nous sommes frères et sœurs et que chacun d'entre nous, nous appartenons tous à la famille de Dieu. Saint Jean nous dit aujourd'hui dans la première lecture de la messe « Bien-aimés, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier ». Dans des moments comme celui-ci, nous pouvons être tentés de remettre en question l'amour de Dieu pour nous, de nous demander où il se trouve alors que de bonnes personnes souffrent. Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal se produire? Pourquoi laisse-t-il se produire des catastrophes naturelles telles que des incendies de forêt, des ouragans, des tremblements de terre ou des inondations? Il n'y a pas de réponse facile. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de réponse. En ce moment, Dieu appelle chacun d'entre nous à être l'instrument par lequel il manifeste son amour, sa compassion et son attention à ceux qui souffrent. Nous devons être ceux qui apportent du réconfort à nos voisins en ces temps de catastrophe. Nous devons être également à leur côté et les aider à reconstruire et à aller de l'avant avec courage, foi et espoir en Dieu. Prions pour eux.
Monseigneur José Gomez, lors de la messe célébrée en cathédrale Notre-Dame des Anges, ce soir un couvre-feu a été décrété dans toutes les zones sinistrées pour permettre aux pompiers de travailler et afin d'éviter les pillages. Un troisième mandat qui sera celui de la paix, de la prospérité, de l'égalité, de la nouvelle démocratie. C'est ce qu'a juré Nicolas Maduro en fin de matinée à Caracas en prêtant serment malgré les accusations de fraude électorale, son isolement sur la scène internationale et un contexte économique et sociale catastrophique. L'opposition vénézuélienne qui revendique la victoire estime que cette cérémonie est un coup d'État. La chef de l'Union européenne considère, elle, que le président Maduro n'a aucune légitimité démocratique. Une position partagée par le Royaume-Uni. La Terre se réchauffe et les pires craintes se réalisent. La limite de 1,5 degré de réchauffement fixée par l'accord de Paris en 2015 a été dépassée en 2023 et 2024. C'est ce que révèle l'Observatoire européen Copernicus. 10 ans après la COP21, le monde n'est pas parvenu à ralentir la tendance. En cause, bien évidemment, les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces gaz, ceux provenant des centrales à charbon, la transition énergétique, du moins en Europe, pousse à leur fermeture. C'est le cas en Pologne où cette évolution n'est pas cependant sans poser des problèmes sociaux. Hier, des ouvriers de l'industrie du charbon et les mineurs venus de toute la Pologne ont convergé vers Varsovie. Alors que 60% de l'électricité du pays est encore issue du minerai, le secteur génère 8 fois plus d'emplois en Pologne que dans le reste de l'Europe. Mais les normes écologiques européennes poussent la Pologne vers une sortie du charbon à marche forcée qui inquiète les employés du secteur. Reportage à Varsovie d'Adrien Sarla.
Comme un baroud d'honneur dans les rues de Varsovie. La centrale à charbon dans laquelle travaille Piotr devait fermer à l'horizon 2030, mais le groupe énergétique PGE a avancé l'échéance à l'année prochaine. Lui travaille depuis 36 ans et s'inquiète pour son avenir.
On ne sait même pas si on va pouvoir avoir du travail demain. Est-ce qu'on prévoit de nous transférer, nous et notre savoir-faire, dans une autre entreprise? J'espère qu'ils vont pouvoir nous assurer que personne ne perdra son emploi. Mais pour l'instant, ils ne nous disent rien.
Les ouvriers l'affirment, la Pologne n'est pas encore prête à se passer du charbon. La construction de la première centrale nucléaire du pays a à peine commencé et le réseau d'infrastructures d'énergie renouvelable reste insuffisant. Andjai estime que ses collègues et lui sont victimes du pacte vert élaboré par Bruxelles.
Pour moi, l'Union européenne est allée trop loin sur les questions de transition énergétique. On a fait des efforts et des investissements colossaux pour entrer dans les standards européens. Et aujourd'hui, alors qu'on s'est mis aux normes, l'Europe déclare qu'il faut nous fermer? Qu'est-ce que ça veut dire au juste?
Ces dernières années, la fermeture progressive des mines n'avait pas mené à une baisse de la consommation de charbon. Varsovie s'était contentée d'importer ce qu'elle ne produisait plus du Kazakhstan ou d'Australie. Chaque année, les Polonais continuent d'en brûler plus de 7 millions de tonnes pour chauffer leur foyer. Adrien Sarla, Varsovie, pour Radio Vatican.
Nouvelle frappe israélienne contre les Houthis au Yémen. Une centrale électrique et des ports de la côte ouest ont été visés aujourd'hui. Et puis l'armée israélienne a également frappé le sud du Liban, tuant 2 personnes. Plus au nord, la Syrie intéresse beaucoup la Turquie qui se préoccupe du coup de la présence des djihadistes français détenus par les forces kurdes de Syrie, les YPG. Ce matin, le chef de la diplomatie turque a demandé à la France de les rapatrier, ce que Paris n'est pas disposé à faire, à l'image de plusieurs pays européens dans le même cas. Or, Ankara menace de mener une nouvelle offensive contre les YPG qu'il considère comme un groupe terroriste. À Ankara, à Nandlore.
Depuis des années, le soutien des Occidentaux, tout particulièrement des États-Unis et de la France aux forces kurdes syriennes, est perçu par la Turquie comme une trahison, ou du moins comme le signe que ses alliés ne s'intéressent pas à sa sécurité. Le fait que ces forces kurdes, les YPG, aient combattu contre le groupe État islamique et qu'elles gardent les camps de prisonniers djihadistes n'est qu'un prétexte aux yeux d'Ankara. C'est le sens des propos de son chef de la diplomatie à Khan Fidan.
Si la France a quelque chose à faire, c'est de prendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger dans ses propres tribunaux. Ce n'est pas de les confier aux services pénitentiaires des YPG ou d'une autre organisation terroriste et de venir dire ensuite qu'ils soutiennent cette organisation. Dans ce cas, pourquoi ne pourrais-je pas rassembler tous les membres du PKK détenus en Turquie pour les envoyer sur une île française ou dans n'importe quelle région française et m'arranger pour qu'ils soient détenus là-bas? Est-ce qu'un tel monde existe?
Depuis le changement de régime à Damas, la Turquie menace chaque jour de lancer une offensive contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Mais elle semble privilégier d'abord le dialogue avec le nouveau pouvoir syrien pour atteindre son objectif, le désarmement et la dissolution des YPG. Ankara propose par ailleurs d'aider les autorités de Damas à prendre en charge la lutte contre le groupe État islamique et les milliers de djihadistes ainsi que leurs familles actuellement détenues par les forces kurdes. À Ankara, Alain Deloire pour Radio Vatican.
Direction maintenant le Vatican pour cette fin de journal. Une cinquantaine de responsables du congrès Mission 2025 ont été reçus ce matin par le pape François. Depuis 10 ans, ils organisent un rassemblement annuel pour promouvoir les multiples initiatives missionnaires en France. En novembre prochain, il se déroulera à Paris-Bercy et des milliers de personnes sont attendues. Antoine Jaron, un des responsables de l'événement, témoigne de la nécessité actuelle d'évangéliser et de parler du Christ en France.
Nous sommes amenés à rencontrer une population qui ne connaît pas Dieu, qui n'en a jamais entendu parler, ni par les parents, ni par les grands-parents, ni par les amis. Ça crée un terrain de discussion vraiment passionnant, dans le sens où ce sont des gens qui ne sont pas fermés à la discussion, qui ne sont pas fermés à entendre parler de Jésus, qui ne sont pas fermés à vouloir prier avec les personnes et à qui nous proposons. Le pape nous a dit, oui, qu'on connaît la France comme la fille aînée de l'Église, et les détracteurs en France disent, oui, fille aînée de l'Église, mais fille assez infidèle. Et le pape nous a dit, c'est faux. La France n'est pas si infidèle aux promesses de son baptême. Il nous a encouragés à continuer dans ce projet missionnaire, il nous a encouragés à nous laisser bousculer par le Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit, parfois, il se met un peu le chaos, il se met un peu le bazar, il se met un peu la confusion. Il fallait s'emparer de ces petits moments, de ces petites occasions que le Saint-Esprit crée pour pouvoir annoncer le Christ et pour pouvoir parler de lui.
Des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Demain, une nouveauté au Vatican, une audience générale du pape François en salle Paul VI. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Jubilé 2025. Elle sera à suivre, commentée en français sur notre site internet, notre page Facebook et notre canal YouTube à partir de 9h, heure de Rome. Les audiences jubilaires auront lieu 2 samedis par mois en moyenne tout au long de l'année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera lundi matin. Très bonne soirée, très bon week-end à toutes et à tous.